It's Morning Edition from NPR News.
Let's see, Team San Pinto, how is it?
France Inter, le 18.
Et ce soir, nous allons vous faire découvrir et comprendre, j'espère, Taïwan, cette île convoitée par les Chinois, mais qui ne se laissera pas prendre. Une île qui pousse vers la démocratie de plus en plus fort. Une île aussi qui donne un effet miroir avec l'Ukraine. Ce qui se passe en Ukraine, la manière dont les Russes sont repoussés, fait aussi réfléchir Xi Jinping. On y vient avec notre premier invité. Le bruit du monde, ce sont les notes vocales d'Ukraine de Caroline Gilly avec Anastasia et Daria, l'une à Odessa, l'autre en Belgique. Le bruit du monde, la suite, c'est Sébastien Eugénie qui, sous les radars, a trouvé une police spéciale dans les universités grecques. La libération de la Reine Rouge au Japon et l'histoire du cappuccino enfin révélée. 18h50, l'Amérique de Joe Biden a deux voix ce soir avec Sébastien Paour qui est au Texas et Loïc Loury qui est à New York. 18h55, le monde d'après de Jean-Marc Fouré. Cette question en plein Conseil européen et discussion sur les sanctions contre la Russie. Jusqu'où va-t-on laisser la Hongrie dicter sa loi en Europe? Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabien Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Valérie Niquet.
Bonsoir.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de l'Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Vous signez un livre qui s'appelle « Taïwan face à la Chine ». C'est publié chez Talendier. Et c'est passionnant parce qu'on apprend mille choses sur cette île que, au fond, on connaît tellement peu. Et en vous lisant, Valérie Niquet, on peut pas s'empêcher d'être frappé par l'effet miroir entre Taïwan et l'Ukraine, celle d'un pays géant qui veut mettre la main sur un pays voisin qu'il considère à lui et qui, en même temps, est aux antipodes de ce qu'il est. Il y a beaucoup de chapitres qui sont consacrés à cette différence, mais c'est vrai qu'elle est frappante, surtout en ce moment.
Ben oui, effectivement, et la plus grande des différences qui est commune à l'Ukraine et à Taïwan, c'est que d'un côté, on a envie de se tourner vers les démocraties, et Taïwan est une démocratie sans doute encore plus parfaite, entre guillemets, ou complète que ne l'est, que ne l'était l'Ukraine avant l'entrée en guerre. Et que face à ça, on a deux systèmes, la Russie d'un côté et la République populaire de Chine de l'autre, qui ne voient qu'une sorte de discours totalement figé dans le passé, en plus, voulant reconstituer un empire qui n'existe plus. Et où, en plus, dans le cas de Taïwan, la Chine n'a jamais véritablement contrôlé l'île, en fait, dans son histoire, jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
Et ça fait... C'est vraiment dans la narrative chinoise, ça, effectivement, d'imaginer que Taïwan appartient à la Chine. Quand on vous lit, et on se rafraîchit réellement la mémoire. En fait, Taïwan n'a jamais été chinoise, ou tellement peu, finalement.
Oui, finalement, et pendant quelques décennies sous l'Empire des Qing, mais sous l'Empire des Qing, c'était, il n'y avait pas de frontières, c'était des marges où il y avait plus ou moins une influence chinoise, et Taïwan ne faisait pas partie des zones les mieux contrôlées par ce fameux Empire Qing. Ensuite, ça a été une colonie japonaise pendant très très longtemps, jusqu'en 1945. Et puis, c'est simplement pendant la Deuxième Guerre mondiale que tout d'un coup, et le Kuomintang, donc Chiang Kai-shek d'un côté, et les communistes qui ont suivi, se disent finalement on pourrait récupérer Taïwan, mais sans une très très grande conviction initialement. Aujourd'hui, en revanche, pour Xi Jinping notamment, et pour tous les dirigeants chinois, mais encore plus pour lui, la réunification avec Taïwan, c'est devenu quasiment le marqueur de la légitimité du système communiste en Chine. Et il y a un enfermement dans ce discours qui est qu'il faut se réunifier avec Taïwan, c'est ça qui signera le retour de la grandeur de la Chine, y compris d'ailleurs en ayant éventuellement recours à la force, puisque les Taïwanais ne sont que 5% à souhaiter cette réunification.
Et vous dites qu'il est enfermé là-dedans, Xi Jinping, c'est devenu effectivement une obsession. C'est là aussi que je vois un point commun au fond avec la Russie. On a l'impression que Taïwan, la démocrate, Taïwan qui a un régime démocratique, encore plus démocratique d'ailleurs depuis 2016, on y viendra, agace terriblement la Chine, au fond autant que l'Ukraine européenne tournée vers l'Ouest et vers nous, agace Moscou. C'est le point commun, c'est l'agacement commun, au fond, de ces deux grands pays par rapport à ce petit morceau.
Oui. Et d'autant plus que dans les deux cas, on est quand même dans un même monde culturel, l'Ukraine et la Russie, Taïwan et la Chine. Et pour Pékin, effectivement, la démocratie taïwanaise est un défi direct dans la mesure où ça contredit le discours chinois qui est de dire qu'il n'y a pas de valeur universelle, qu'il y a uniquement des valeurs aux caractéristiques chinoises et que donc la démocratie n'est pas possible pour la Chine. Taïwan montre avec éclat que ça n'est pas le cas. Le deuxième défi que pose la démocratie taïwanaise à la Chine, c'est que justement, ça met Taïwan dans un cas qui est totalement différent de celui de Hong Kong. Quand Hong Kong a été rendu à la Chine par les Britanniques, ancienne colonie britannique, en 1997, personne n'a demandé leur avis à la population de Hong Kong. Il n'y a pas eu de référendum, Pékin n'en voulait pas, il n'y a pas eu de consultation. Or, aujourd'hui, Taïwan est une démocratie, ce qui n'était pas le cas à l'époque du Kuomintang, et donc la population taïwanaise vote. Taïwan dit aujourd'hui qu'il ne pourra de toute manière pas même être envisagé un changement dans le statut de Taïwan par rapport à la Chine, sans que de toute manière il y ait une consultation de, et un accord de la population taïwanaise. Et ça, c'est un vrai défi aussi pour Pékin. Taïwan est une démocratie qui décide elle-même de son sort.
Vous décrivez un certain nombre de scénarios, et le premier scénario, c'était d'y aller à la russe, si je puis dire, c'est-à-dire une véritable guerre éclair. Et vous dites que désormais, ça semble totalement improbable et impossible. Est-ce qu'il y a là aussi un miroir ? Est-ce que Xi Jinping regarde ce qui se passe en Ukraine en disant finalement, c'est pas comme ça qu'on devra le faire.
Oui, le scénario était de toute manière risqué avant même l'Ukraine. Mais là, Xi Jinping, qui peut-être s'emballait lui-même dans cette idée de grande puissance qui quasiment était égale à celle des États-Unis, eh bien, a réalisé qu'envahir un pays, et entre la Russie et l'Ukraine, il y a uniquement une frontière terrestre, alors que là, pour la Chine, il faut franchir un détroit qui fait 180, 130 à 180 kilomètres de large. Et donc, les opérations militaires seraient extrêmement complexes. La logistique, dont on a beaucoup parlé, serait très difficile à mettre en place. Et la Chine n'a aucune expérience du combat depuis 1979 avec des escarmouches, une guerre avec le Vietnam qui d'ailleurs s'était mal terminée pour Pékin. Pour la Chine, c'est la réalité d'un conflit qui ne serait évidemment pas simple et qui, si la Chine s'embourbait dedans, le perdait, pourrait coûter même la survie, non pas peut-être totalement du régime, mais en tout cas de la direction actuelle.
Mais oui, c'est aussi grave que ça parce que vous dites, en effet, vous écrivez que une opération chinoise contre Taïwan a toutes les chances d'échouer, voire de faire tomber le régime chinois.
On peut imaginer d'abord échouer, encore une fois, franchir un détroit de 130 km de large, tout ceci sous l'observation des États-Unis qui, quel que soit le niveau d'engagement, en tout cas aiderait Taïwan. On a vu quelle était l'efficacité des systèmes d'observation américains, de frappe. Il y aurait un coût considérable. La Chine n'a pas les moyens aujourd'hui d'assurer un roulement constant permettant d'amener en permanence des hommes, des munitions, des approvisionnements pour occuper une île qui, en plus, a un relief très, très difficile à contrôler. Et une défaite serait extrêmement humiliante pour le pouvoir chinois et surtout très coûteuse. Ça pourrait mettre un coup d'arrêt au développement de la Chine. On voit que l'économie, en ce moment, ne va pas très bien, d'ailleurs, côté chinois. Et donc, tout ce qui fait la légitimité du régime, la fierté nationale et le développement économique seraient remis en cause.
Et on apprend, en vous lisant, d'ailleurs, qu'il y a beaucoup de choses économiquement, notamment les semi-conducteurs, qui sont taïwanais, dont dépend aussi la Chine, ce qui peut être également un argument. Valérie Niquet, on a été frappé par les mots de Joe Biden depuis Tokyo la semaine dernière qui dit que oui, les États-Unis défendront militairement Taïwan en cas d'attaque chinoise. Est-ce que c'est mettre les pieds dans le plat ? Est-ce que c'est le faire sciemment ? Est-ce que, au fond, c'est une clarification ? Comment on interprète ces mots-là ?
Alors, il l'a fait à plusieurs reprises. En même temps, les Américains disent qu'ils ne lèvent pas du tout cette ambiguïté stratégique. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un engagement américain auprès de Taïwan qui est plus important dans les textes que ce qu'il était auprès de l'Ukraine. Les États-Unis, en 1979, se sont engagés à donner à Taïwan les capacités de se défendre et n'excluaient pas une intervention s'il y avait une attaque chinoise. L'idée des États-Unis, c'est de dissuader évidemment toute intervention, tentation d'intervention de la part de Pékin en se disant qu'il pouvait y aller et que les Américains ne bougeraient pas. Donc il faut dissuader Pékin. Et puis ça reflète aussi la légitimité de plus en plus grande, même si Taïwan n'est pas officiellement reconnu, idéologiquement, on voit bien que la démocratie taïwanaise auprès des autres grandes démocraties européennes, aux États-Unis, en Asie également, est beaucoup plus légitime ou est beaucoup mieux acceptée qu'un régime chinois qui s'est enfermé dans une attitude de plus en plus agressive et idéologique.
Et quel est le rôle qui est en train de jouer le Japon, qui semble de plus en plus enclin à défendre Taïwan, voire à prendre la place d'ailleurs peut-être à certains égards des États-Unis. Comment faut-il le lire, ce rapprochement-là ?
Alors, on en est très très loin avec le Japon. Hein. Le Japon déjà donne des garanties, essaye de donner des garanties aux États-Unis en déclarant que oui, pour le Japon aussi, la stabilité dans le détroit de Taïwan est quelque chose de très important. Oui. Donc, c'est une forme d'engagement. Ceci dit, on ne peut pas imaginer encore, pour le moment, que le Japon joue un rôle majeur dans la défense de Taïwan. En revanche, les principales bases américaines en Asie et donc tout près des côtes taïwanaises se trouvent au Japon, à Okinawa notamment. Et donc, s'il y avait un conflit dans le détroit de Taïwan, il est certain que le Japon serait indirectement engagé, ne serait-ce que parce qu'il accueille ces bases américaines extrêmement importantes pour tout ce qui est logistique et opération.
Alors, il y a la guerre totale, effectivement, dont on parlait et qui peut être effectivement extrêmement dangereuse pour la Chine. Il y a d'autres manières. Il y a les îles autour. Il y a aussi ce que vous appelez la guerre d'influence, qui a déjà largement commencé, les cyberattaques, les fake news, l'intimidation, etc. Quelle est la place de cette guerre d'influence-là et jusqu'à quel point elle a de l'efficacité et elle pèse sur Taïwan ?
Alors, elle avait une grande efficacité quand la Chine pouvait jouer de cette interdépendance économique très forte qui existe d'une manière indéniable entre Taïwan et la Chine. Les réformes en Chine et la croissance de la Chine sont très largement dues aux investissements taïwanais. Les plus grandes entreprises en termes de technologie comme Foxconn, par exemple, en Chine, sont des entreprises taïwanaises. Donc, il y a une vraie imbrication et le discours chinois était de dire, mais finalement, on a des intérêts communs, donc forcément, un jour, on se rapprochera et même on sera réunifié. Mais la Chine a commis beaucoup d'erreurs. Alors d'abord, cette reprise en main économique qui touche les entreprises chinoises aujourd'hui, qui inquiète aussi à Taïwan, les garanties, les investissements. Et puis encore, le contre-exemple de Hong Kong a été catastrophique pour les Taïwanais qui tout d'un coup ont réalisé que les engagements chinois, les garanties chinoises finalement ne valaient rien et que c'était Pékin qui en dernier ressort décidait. Et tout ça a été très négatif dans la perception de la Chine. C'est vrai que pendant assez longtemps, beaucoup à Taïwan trouvaient que finalement, il y avait des intérêts communs très forts, une culture commune. Aujourd'hui, la Chine fait peur, ce qui n'était pas forcément le cas il y a encore une dizaine d'années.
Et que disent les Chinois d'ailleurs, eux ? Est-ce que si on les interrogeait, alors c'est aussi compliqué d'interroger les Chinois que ça allait d'interroger les Russes d'ailleurs, puisqu'on faisait cette comparaison au début de cet entretien. Les Chinois, eux, si on leur posait la question, disent quoi ? Taïwan est à nous ou est-ce qu'il y a une vraie indifférence au-delà de cette obsession de Xi Jinping ?
C'est très difficile de savoir ce que pensent véritablement les Chinois. Je pense que les Chinois sont d'abord focalisés sur leur vie quotidienne et les problèmes économiques qu'ils peuvent rencontrer. Le discours dominant qu'ils entendent d'une manière continue, la propagande, l'enseignement, c'est que Taïwan appartient à la Chine. Donc évidemment, le réflexe c'est de dire, Taïwan c'est chinois. Et ça... Mais de là à imaginer qu'ils partiraient la fleur au fusil, prêts à mourir pour Taïwan, à reconquérir Taïwan, je pense qu'on est très très loin de la réalité. On n'a pas parlé des sanctions qui pèseraient sur la Chine, mais elles seraient très importantes aussi, uniquement pour affirmer la reconquête de Taïwan.
En vous lisant, Valérie Niquet, on comprend à quel point l'île s'est détachée de Pékin, on comprend jusqu'à quel point la rivalité est telle qu'on en a finalement une vision qui est presque idéalisée avec des organisations démocratiques qui s'y sont installées, en effet, parce qu'elles ont quitté Hong Kong, avec une liberté de la presse qui est totale, avec une égalité des genres, avec une modernité, avec une femme présidente. Est-ce que tout cela est une vraie réalité ou finalement une vision fantasmée où plus le danger chinois est là, plus la démocratie est puissante ?
Alors non, c'est pas du tout un fantasme, c'est la réalité de la démocratie taïwanaise aujourd'hui. Taïwan est une démocratie, je dirais normale, mais qui fonctionne, et qui fonctionne particulièrement bien, et dans une région en Asie, où bien sûr il y a eu un grand mouvement de démocratisation depuis les années 80, mais où beaucoup de pays sont encore relativement en retard, et il y a d'autres pays démocratiques de la région, qui sur le plan social notamment, sociétal, n'atteint pas le niveau de Taïwan aujourd'hui.
Et pour autant, il n'y a pas de demande d'indépendance formelle, il n'y a pas ce statut-là à Taïwan. Pourquoi il faut garder ce statu quo, y compris pour les Taïwanais ?
Alors, évidemment, il y a la possibilité de déclarer l'indépendance. Mais les Taïwanais qui sont le personnel politique taïwanais, y compris les indépendantistes autour de la présidente Tsai Ing-wen, sont parfaitement conscients du fait que s'ils déclaraient l'indépendance, en fait, ils enfermeraient la Chine, la République populaire de Chine, dans une impasse et que ce serait extrêmement difficile pour tout dirigeant chinois de ne rien faire. Donc, pour éviter de provoquer un conflit en déclarant l'indépendance qui obligerait Pékin à réagir, eh bien, ils choisissent pour le moment de préserver le statu quo, c'est-à-dire pas de déclaration d'indépendance, mais évidemment pas de réunification. C'est aussi ce que préfère pour le moment la population taïwanaise. L'idée étant de voir comment les choses évolueront sur le continent. Est-ce qu'une solution peut un jour être trouvée d'une manière plus apaisée ? Et donc, c'est plutôt une vision de long terme. Mais il est certain que Taïwan, aujourd'hui, n'a pas du tout l'intention de provoquer Pékin à un conflit en déclarant l'indépendance formellement.
Est-ce que l'isolement diplomatique lui pèse ou pas ?
Alors, ça pèse dans la mesure où il y a toute une série d'enceintes où Taïwan ne peut pas se faire entendre en raison du veto chinois. Et notamment, on a beaucoup parlé de l'Organisation mondiale de la santé au moment du Covid. Et on voit bien que Pékin, mais pas uniquement avec Taïwan, d'une manière générale, manie avec plaisir le chantage, en quelque sorte. Pékin avait accordé, avait laissé plus exactement, puisque c'est Taïwan occupé un siège d'observateur à l'Organisation mondiale de la santé, pour simplifier, quand il y avait à Taïwan un parti au pouvoir, le Kuomintang, qui reconnaissait l'idée qu'il y avait une seule Chine, même si les deux Chines étaient différentes. Tsai Ing-wen, elle, refuse d'entériner ce discours et déclare que Taïwan a sa propre identité qui n'est pas celle de la Chine. Et donc, en punition, Pékin a mis son veto pour que Taïwan soit représenté. Donc, pendant toute la crise du Covid, Taïwan est obligé formellement de passer par l'intermédiaire de la République populaire de Chine pour tenter de se faire entendre ou d'être représenté sur les questions, par exemple, de santé.
Une toute dernière question, Valérie Niquet. Imaginez-vous Xi Jinping quitter le pouvoir sans avoir réunifié Taïwan à la Chine, d'une manière ou d'une autre. Vous avez, à la conclusion de votre livre, et c'est intéressant, une espèce d'utopie, d'une convergence des régimes dans une forme de fédération qui serait aussi valable au Tibet, qui serait valable aussi pour le Xinjiang d'ailleurs également. Donc il y a quelque chose de très positif, malgré tout très optimiste. Mais imaginez-vous quand même Xi Jinping quitter le pouvoir sans avoir réunifié Taïwan ?
Le pouvoir de Xi Jinping, vous savez, il y a beaucoup de points d'interrogation et certains s'interrogent même de savoir si, comme il l'affirme, il sera véritablement reconduit avec son troisième mandat au mois d'octobre pour le 20e du congrès du Parti communiste chinois. C'est le genre de régime où les choses peuvent basculer très rapidement et d'autres factions plus ouvertes peuvent tout à fait considérer que Xi Jinping n'est pas si favorable aux intérêts de la Chine et en le marginaliser, par exemple. Donc, je ne pense pas du tout que Xi Jinping réunifiera pourra s'emparer de Taïwan avant la fin de son mandat. Et on ne sait pas du tout à quelle échéance, d'ailleurs, il pourra se maintenir au pouvoir. Et quant à l'utopie, oui, c'est une vision assez utopique. Mais en fait, c'est aussi ce que j'explique dans le livre, c'est que c'est plutôt le modèle de démocratisation taïwanais qui part du haut, qui n'est pas parti de mouvements très violents à la base, et qui, dans ce type de régime, est tout à fait possible et qui serait sans doute la meilleure solution à long terme pour la stabilité de la Chine elle-même et qui ouvrirait donc des possibilités de relations apaisées avec l'ensemble de ses voisins, d'ailleurs pas uniquement Taïwan.
Bah écoutez, relations apaisées, c'est ce qu'on souhaite à tout le monde, pas seulement du côté de Taïwan, de la Chine. Merci beaucoup Valérie Niquet, ça s'appelle Taïwan face à la Chine, publié chez Talendier et c'est passionnant. Merci beaucoup de votre passage dans Un jour dans le monde.
Merci.
À bientôt.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès sur France Inter.
La suite, ce soir, c'est le bruit du monde. Ce sont les notes vocales d'Ukraine de Caroline Gillet avec Anastasia et avec Daria ce soir. Et pour aller jusqu'à 19h sous les radars, Sébastien Lougénie.
Nous irons en Grèce où l'instauration d'une police universitaire embrase les campus étudiants.
L'Amérique de Joe Biden, Sébastien Paour et Loïc Loury. Ce soir, ça va se passer en deux temps et à deux voix, s'il vous plaît. Le monde d'après, c'est Jean-Marc Faux. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir à tous. Le Conseil européen bloque sur le nouveau train de sanctions contre la Russie à cause de la Hongrie. Jusqu'à quand va-t-on laisser le Hongrois Orban dicter sa loi en Europe?
Allez, à tout de suite tout le monde, le tour de la planète ce n'est pas fini, il passe par le Royaume-Uni avec The Smile. Il y a des morceaux de Radiohead dans ce groupe. Le titre s'appelle The Smoke, c'est dans la playlist de France Inter. monde est en Ukraine, comme tous les lundis, avec les notes vocales de Caroline Gillet. Bonsoir Caroline.
Bonsoir Fabienne.
Et ça fait plus de 3 mois désormais que la guerre en Ukraine a débuté. On prend des nouvelles ici toutes les semaines de celles et ceux qui vous envoient des notes vocales pour témoigner sur leur téléphone.
Voilà, et ce que vous entendez là, c'est le bruit de la foire du livre à Odessa. Anastasia a enregistré cette ambiance, elle y était ce week-end. Il y a beaucoup de monde, elle dit, c'est presque comme avant et elle n'en revient pas. Vous vous souvenez, c'est elle qui avait fui sa ville occupée de Kherson, elle était menacée par les militaires russes. Les nouvelles qui lui parviennent de chez elle depuis sont de plus en plus mauvaises.
Hier, ma copine, elle m'a dit que son cousin, qui est aussi son voisin, a été kidnappé au travail. Il est électricien. Et quand les soldats russes sont venus, ils ont appelé sa femme et ils ont dit qu'il est chez eux et il est là pour la rééducation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la rééducation? Quelqu'un dit que on peut apprendre leur propagande ou même vers les tortures d'électricité, de je sais pas. J'espère qu'il va rentrer le plus vite possible et on verra qu'est-ce qu'il va raconter. S'il pourra raconter quelque chose, parce que j'ai déjà entendu que les hommes qui ont été kidnappés et qui rentrent à la maison, ils deviennent complètement différents. Je suis très désolée pour cette famille. Il a 2 fils, je connais les 2 et ça me choque vraiment. Chaque fois quand je pense que ok, je suis plus à Kherson, je suis à Odessa où la vie continue, si on peut dire, j'apprends des informations comme ça qui m'arrêtent un peu et qui me laissent comprendre que vraiment rien n'est bien maintenant.
Anastasia a déjà dit ici que sa priorité maintenant, c'est de prendre des cours de conduite pour être plus autonome, pouvoir fuir plus vite et plus facilement en cas de danger. Elle a trouvé une auto-école à Odessa, mais son projet se complique à cause des pénuries d'essence.
Hier, j'ai dû avoir un cours de conduite. Notre instructeur est arrivé chez nous. Et puis quand on est sorti, c'est apparu que sa voiture a été cassée. C'était pas possible de la conduire parce que le gazole qu'il a acheté a été mélangé avec quelque chose d'autre. C'est ce qu'on fait en Ukraine parfois pour économiser de gazole.
Alors face aux pénuries, une application a été créée pour répertorier en temps réel les stations avec essence. Et c'est Daria qui m'expliquait ça parce que elle s'y intéresse de loin. Elle a fui l'Ukraine avec ses 2 filles pour se réfugier en Belgique. Son mari a dû rester dans la banlieue de Kiev et tous les soirs il s'appelle.
J'appelle mon mari ce soir.
Allô.
Non, privé de santé.
Privé.
Le mari de Daria a lui aussi des problèmes de carburant. Il était allé dormir chez le père de Daria à Kiev pour pouvoir se lever à l'aube, 3 heures avant l'ouverture des stations-service, et acheter de l'essence.
Mon père, il a réussi à le faire il y a 2 jours, mais il y a 1 jour, mon mari ne pouvait plus le faire. Et donc même, il a essayé avec l'application. Et donc cette application, on peut trouver le poste d'essence le plus proche avec un type d'essence ou de combustible qu'il faut. Et finalement, mon mari a dit qu'il a vérifié. Et donc le poste d'essence le plus proche de lui, ça devait être à Mykolaïv, c'est-à-dire une ville qui se trouve à 500 ou 600 kilomètres. Et oui, il faut préciser que Mykolaïv, c'est une ville qui est pas loin de la ligne de front.
Voilà, merci beaucoup à Anastasia, Caroline, merci à Daria aussi.
Et oui, et si vous, et si parmi les auditeurs, il y en a qui vivent proche de Namur, sachez que Daria, qu'on vient d'entendre, qui traduisait les propos de son mari, cherche toujours un appartement pas trop cher à louer en ville. Si vous entendez parler de quelque chose, écrivez-nous.
Voilà, et bien merci à vous, Caroline Gillet, merci beaucoup. À lundi prochain, laissez-moi quand même prendre juste une toute petite minute dans Un jour dans le monde, puisqu'on est en Ukraine, pour rendre hommage nous aussi à Frédéric Leclerimoff, le journaliste de BFM Télé qui est mort aujourd'hui en Ukraine alors à bord d'un bus humanitaire qui transportait des civils. On a évidemment une grosse pensée pour sa famille, on a une grosse pensée aussi pour toutes les équipes qui sont là-bas sur le terrain, celles de BFM Télé bien sûr, ce soir particulièrement, les nôtres aussi, celles de tous les médias qui nous informent, et on y revient très longuement tout à l'heure dans le journal de 19h. Le bruit du monde, la suite, c'est Sous les radars. Et c'est Sébastien Logénie. Avec Sébastien, des manifestations d'étudiants en Grèce, les étudiants qui s'opposent à l'instauration d'une police spéciale dans les universités.
Oui, cette décision provoque de grandes tensions en ce moment au sein des campus. La semaine dernière, à Thessalonique, deuxième ville la plus grande de Grèce, un rassemblement étudiant a même tourné à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Un étudiant blessé a dû être conduit à l'hôpital. Au cœur de la colère des étudiants, un texte très controversé, adopté par le gouvernement de droite et le Parlement l'an dernier, c'est la fin de ce qu'on appelle l'asile universitaire. L'autogestion, en quelque sorte. Jusqu'ici, c'est le recteur qui appelait la police en cas de trouble. Désormais, il y aura en permanence une brigade de protection dans les facultés afin, dit le gouvernement, de combattre les violences des groupuscules d'extrême gauche, le vandalisme, le trafic de drogue. Cette police de 1000 hommes n'aura pas d'armes à feu, mais des matraques et des gaz lacrymogènes. Les premiers effectifs doivent être déployés au cours du mois de juin. Depuis un an, les débats font rage, comme on l'entend dans les médias, autour de cette loi qui rappelle de très mauvais souvenirs en Grèce. En 1973, la junte des colonels avait réprimé dans le sang le mouvement étudiantin de Polytechnique à Athènes. Toute l'opposition est aujourd'hui vent debout contre ce texte qu'elle estime antidémocratique. 1000 universitaires ont signé une pétition pour demander son retrait. Les syndicats de policiers, eux, craignent d'être pris pour cible. Mais le gouvernement reste droit dans ses bottes. Outre cette police spéciale, les autorités prévoient aussi de placer des caméras de surveillance, des portiques de sécurité avec des badges obligatoires et des conseils de discipline auxquels participeraient les forces de l'ordre.
Direction le Japon avec la libération de celle qu'on appelait l'impératrice de la terreur.
Oui, c'est une figure historique de l'extrême gauche nippone, Fusako Shigenobu. C'était la fondatrice de l'armée rouge japonaise, un mouvement politique très peu connu mais qui a semé la terreur dans les années 70-80 dans le monde au nom de la cause palestinienne. La Reine Rouge, comme elle était aussi surnommée, a été libérée ce week-end à Tokyo, à l'âge de 76 ans, après avoir passé 20 ans derrière les barreaux. À sa sortie devant une forêt de micros de journalistes, elle a réitéré ses regrets 50 ans après ses premiers faits d'armes. C'était il y a un demi-siècle, explique-t-elle, mais en donnant la priorité à notre combat, dit-elle, nous avons causé des dommages à des personnes innocentes qui nous étaient étrangères, par exemple par des prises d'otages. Je voudrais profiter de cette occasion pour présenter mes excuses, même si cela s'est passé il y a longtemps. Fusako Shigenobu est devenue militante révolutionnaire à l'époque de la guerre du Vietnam. Elle fonde l'ARJ, l'armée rouge japonaise, en 71, très proche du FPLP, le Front de Libération de la Palestine, dont Carlos sera l'un des membres. En 72, elle est soupçonnée d'avoir organisé une opération suicide avec mitraillette, grenade à l'aéroport de Tel Aviv, une tuerie qui fera 26 morts. Deux ans plus tard, elle organise une prise d'otage à l'ambassade de France, aux Pays-Bas, qui va durer une centaine d'heures. Au même moment, Carlos attaque le drugstore Publicis des Champs-Élysées. Fusako sera arrêtée en l'an 2000 au Japon. La justice nippone recherche toujours les auteurs de la tuerie de l'aéroport de Tel Aviv. Aujourd'hui, ils sont en exil au Liban.
Et puis alors, rien à voir, on termine en Italie, Sébastien, avec la véritable histoire du cappuccino.
Eh oui, le cappuccino n'a pas été inventé, Fabienne, par les Italiens, mais plutôt par leurs voisins autrichiens. Et ce sont des Italiens eux-mêmes qui le disent, de grands professionnels reconnus, selon eux.
C'est un choc.
Exactement, il ressemblerait que le cappuccino vienne de l'allemand « cappucciner », qui désigne un moine capucin. Ce moine capucin répond au nom de Marco d'Aviano. Apparemment, lui aurait un jour servi un café très amer à Vienne, qu'il aurait arrangé avec du sucre et de la crème. Voilà l'explication. Le serveur a noté ses modifications et la boisson a commencé à être servie sous ce nom, en hommage au frère Marco, donc.
La colazione italiana più famosa.
Voilà, la recette.
La colazione italiana.
Est désormais bien connue des Italiens, parfaitement maîtrisée par les Italiens, qui ont même édicté les règles d'un cappuccino parfait. Je vous l'explique, un shot d'espresso, deux quarts de lait, un quart de mousse. Et attention aux décorations, elle dénature le cappuccino, le vrai.
Voilà, un petit cœur sur la mousse. Moi j'aime bien le petit cœur, pas plus.
Voilà, pas plus.
Ça reste un grand classique. Merci beaucoup Sébastien. Vous partez avec une Danoise, tiens. Ben. Ce qui n'a rien à voir, peut-être qu'elle sait faire le cappuccino, Agnès Obel. Il faut lui demander. Riverside sur France Inter.
Down by the river, by the boat, wherever.
Riverside sur France Inter. Allez, direction les États-Unis.
France Inter, un jour dans le monde. I pledge to be a president who seeks
not to divide. L'Amérique de Joe Biden a deux voix. Ce soir, on rejoindra Loïc Loury à New York dans un tout petit instant, mais je salue Sébastien Paour, toujours au Texas. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne.
À peine une semaine après la fusillade de l'école d'Uvalde, Sébastien, mardi dernier, le président américain, hier, était sur place, on le sait. On s'arrête avec vous sur les 78 minutes de cette attaque qui a fait 21 morts, dont 19 enfants.
Oui, c'est le New York Times qui retrace minute par minute le déroulé des faits et il fait froid dans le dos. Le tireur entre à 11h33 par l'arrière de l'école. Il traverse un couloir jusqu'à trouver une porte ouverte. C'est celle qui mène aux salles 111 et 112 où deux enseignantes viennent de projeter le dessin animé Lilo et Stitch aux élèves de CM1. Les trois premiers policiers de la ville sont dans l'école deux minutes après, rejoints par quatre autres. Cela fait 10 minutes. Que l'homme est à l'intérieur désormais, l'établissement prévient les parents que les lieux sont bouclés et une fois devant, la tension monte avec les forces de l'ordre qui tardent trop selon eux. Une demi-heure après l'entrée du tireur, premier appel au numéro d'urgence 911 d'une des élèves qui se trouve dans la classe 112. Elle rappelle plusieurs fois, elle dit qu'il y a beaucoup de morts. D'autres enfants d'une autre classe parviennent eux à s'échapper par une fenêtre. L'unité d'élite de la police aux frontières arrive à midi et quart. L'élève rappelle, dit qu'ils sont 8 ou 9 encore en vie. C'est le moment où l'école annonce officiellement sur Facebook qu'il y a un tireur sur place. Une autre enfant appelle de la classe 111, mais elle raccroche tout de suite à la demande d'une camarade. On entend les coups de feu du tireur au téléphone. La première élève rappelle de nouveau et on lui dit de rester en ligne cette fois sans parler. Elle dit que l'homme a tiré sur la porte. Elle supplie qu'on envoie la police tout de suite. Les forces spéciales entrent dans la classe à 12h50. Il tire 27 fois. L'auteur de la fusillade est abattu. Il a tiré, lui, à plus de 100 reprises.
Un récit qui glace le sang. Vraiment, merci beaucoup Sébastien Paour. Je le disais, c'est à deux voix l'Amérique ce soir avec Loïc Loury. Bonsoir Loïc.
Et bonsoir Fabienne.
L'actualité américaine, c'est aussi ce Memorial Weekend marqué par Donald Trump. L'ex-président a vite tourné la page de cette tuerie d'Uvalde dont on vient de parler.
Oui, absolument. Donald Trump, que l'on a vu se dandiner d'ailleurs après un discours lors du congrès annuel de la NRA, le lobby des armes, à quelques centaines de kilomètres d'Uvalde. Et il était ensuite dans le Wyoming, état de l'Ouest l'Ouest américain pour faire campagne et soutenir Harriet Hagman, candidate républicaine à la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat en novembre prochain. Elle devra d'abord remporter sa primaire au mois d'août face à une figure de la vie politique américaine, Liz Cheney, élue actuelle du Wyoming et fille de l'ex-vice-président Dick Cheney. Personne depuis près de 50 ans n'a perdu une élection dans la famille et Donald Trump aimerait bien que ça change.
Elle est le visage du marécage qu'est Washington. Elle représente les mêmes politiques ratées que les Clinton, les Bush, les Obama, les Biden, celle de l'ensemble de l'establishment politique malade. Regardez comme elle a belle allure.
Voilà, je crois qu'elle a belle allure, dit-il en montrant pour l'anecdote sur un écran géant un photomontage de Liz Cheney avec les traits de George W. Bush provoquant, vous l'entendiez, l'hilarité de cette foule acquise à sa cause.
Mais alors qu'est-ce qu'il lui reproche à Liz Cheney, Donald Trump ?
Eh bien, Liz Cheney, Fabienne, fait partie des 10 républicains de la Chambre à avoir voté en faveur de l'impeachment de Donald Trump après les émeutes du Capitole l'an dernier, impardonnable pour l'ancien président. Depuis, Liz Cheney a payé sa décision au centuple. Elle a été l'objet d'une motion de censure des républicains du Wyoming. Elle a perdu son statut de numéro 3 du parti à l'échelle nationale et elle n'a pas été reconnue candidate légitime pour les prochaines mid-termes. C'est dire la mainmise que Donald Trump exerce encore sur les conservateurs à Washington et sur la base du parti, constitué de ses supporters, disons, les plus bruyants. C'est avec eux qu'il tentera, par vengeance, de bouter Liz Cheney hors du Congrès américain.
Encore faut-il, Loïc, que le reste des électeurs républicains le suivent.
Et oui, et c'est là que le bât blesse, puisque des élections test comme celle-ci, eh bien Donald Trump en a perdu ces dernières semaines dans l'Idaho, le Nebraska, la Caroline du Nord. Ses candidats ont échoué à remporter l'investiture face à des profils plus consensuels. Bref, la croisade de Donald Trump destinée à faire payer tous ceux qui ne le suivent pas aveuglément n'est pas une franche réussite jusque-là, malgré le trésor de guerre dont il dispose. Cette primaire du Wyoming, Liz Cheney face à Harriet Hagman, sera donc scrutée avec énormément d'intérêt et elle pourrait, si la première l'emporte, redonner peut-être un peu de courage aux élus républicains qui n'osent pas s'opposer au tout-puissant Donald Trump.
À suivre avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup Loïc Lory avec nous depuis Washington.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, le Conseil européen est réuni à Bruxelles depuis cet après-midi jusqu'à demain. Il devrait décider de l'achat groupé d'armes pour l'Ukraine. En revanche, il y a blocage pour l'instant parmi les 27 sur l'adoption de nouvelles sanctions contre Moscou. Blocage à cause d'un pays, la Hongrie, de Viktor Orban. Et vous trouvez que ça commence à bien faire, c'est votre monde d'après.
En anglais, on appelle ça « an elephant in the room », un éléphant dans la pièce, dans la salle de ce Conseil européen, comme désormais souvent d'ailleurs. L'éléphant, c'est donc le Hongrois Viktor Orban. Le problème est à peu près le suivant. Voilà maintenant un mois que la Commission européenne annonce un prochain embargo sur le pétrole russe et un mois que ça piétine en raison du veto de la Hongrie. Vladimir Poutine doit bien être sous cap, hein, parce que la position des 27 devient surréaliste. Ils veulent livrer plus d'armes à l'Ukraine. Ils pourraient décider aujourd'hui d'un achat groupé à concurrence de 500 millions d'euros. Mais dans le même temps, ils continuent de financer la guerre de Poutine en lui achetant du pétrole pour l'équivalent de peu ou prou 200 millions par jour. Alors, pourquoi ça bloque ? Parce que l'approvisionnement énergétique de la Hongrie dépend pour l'essentiel d'un oléoduc provenant de Russie, le Druzhba, donc Orban dit non. Et comme les décisions européennes doivent se prendre à l'unanimité, il peut faire tous les chantages du monde. Les Européens lui ont proposé un délai jusqu'à fin 2024, c'est encore non. Maintenant, il lui propose une dérogation, que l'embargo ne concerne pas le pipeline terrestre Druzhba, donc qu'il concerne uniquement les livraisons par la mer, c'est toujours non, insuffisant. La Hongrie, qui est déjà l'un des premiers bénéficiaires des fonds européens, voudrait 15 milliards en plus pour s'adapter. Et en arrivant à Bruxelles tout à l'heure, Orban s'est même autorisé à qualifier la commission d'irresponsable. Ben voyons.
En même temps, et c'est un vrai souci pour la Hongrie, Jean-Marc, cette histoire de pétrole, et c'est normal qu'il y ait une solidarité entre les 27.
Disons que sur le papier, oui, c'est normal. Hein, c'est le principe de l'Union européenne, se serrer les coudes, décider ensemble. Sauf qu'en l'occurrence, on parle du dirigeant qui, depuis des mois, crache à la figure de l'Union européenne et bafoue ses valeurs fondatrices. C'est quand même le pompon. On parle de l'homme, certes réélu facilement à la tête de la Hongrie, mais qui vient de s'arroger des pouvoirs exorbitants en décrétant l'état d'urgence dans le pays. De l'homme qui muselle la presse, qui marginalise le Parlement, qui modifie la Constitution à sa guise, qui gouverne par le népotisme, qui est soupçonné de corruption, qui stigmatise les étrangers. J'arrête là, la liste est trop longue. C'est l'homme aussi qui ménage Vladimir Poutine, dont l'autoritarisme n'est sûrement pas fait pour lui déplaire. Orban refuse même que les livraisons d'armes à l'Ukraine transitent par le territoire hongrois. C'est à peine s'il ne revendique pas ouvertement le rôle de cheval de Troie de la Russie au sein de l'Union européenne. Le mois dernier, l'Europe a d'ailleurs, pour la première fois, enclenché un mécanisme de sanctions contre la Hongrie pour non-respect de l'état de droit. Le versement du plan d'aide post-Covid est suspendu vis-à-vis de Budapest. Donc on est en plein paradoxe. L'Europe, et ses 450 millions d'habitants, est bloquée par son membre le moins respectueux de ses règles et qui ne représente que 10 millions d'habitants. Imaginez un peu un syndic de copropriété où la plupart des décisions devraient se prendre à l'unanimité et où le voisin le plus irascible dicterait sa loi. C'est un peu l'enfer.
Alors, la Hongrie n'est pas totalement seule non plus, non, Jean-Marc ?
C'est vrai que ce veto hongrois rend service à la Slovaquie, à la Tchéquie, voire à l'Allemagne, qui ont aussi des soucis d'approvisionnement énergétique, mais qui n'osent pas le dire trop fort. Et puis, il y a surtout, évidemment, le cas de la Pologne, qui, ces dernières années, a souvent fait alliance avec la Hongrie dans son opposition à Bruxelles. Sauf que la Pologne, elle prend un autre chemin. Ces derniers jours, elle a fait quelques premières concessions aux Européens sur le respect de l'état de droit, réintégration d'un juge rebelle, adoption d'un texte qui revient en partie sur la réforme controversée de la justice dans le pays. Ce n'est pas suffisant, mais c'est un début. Et puis la Pologne, elle, ne fait pas le jeu de Poutine, c'est plutôt l'inverse. Non seulement elle accueille 3 millions de réfugiés ukrainiens, mais elle est, c'est un héritage de l'histoire, vent debout contre la Russie. En plus, avec ses 38 millions d'habitants, son armée mobilisable, son budget de défense important, à peu près 3% du produit intérieur brut, la Pologne possède désormais un poids politique élevé au sein de l'Union européenne. Elle incarne un peu le flanc Est, la première ligne face aux dérives de Poutine. Les trajectoires européennes de la Pologne et de la Hongrie sont en train de se séparer. Et la question revient donc encore plus insistante de fait, jusqu'à quand les 27 Européens vont-ils se laisser dicter leurs décisions par cette règle désormais absurde de l'unanimité, cette règle qui les rend aujourd'hui dépendants de leurs membres le moins fiables.
Jean-Marc Fourré, Le Monde d'après, tous les soirs dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup Jean-Marc. Pour nous, bien sûr, ça continue. Le 18-20, la suite, c'est le téléphone sonne. Juste avant, il y a le journal de 19h d'Hélène Philly. Merci de passer la soirée avec nous.